Nous sommes mercredi 7 avril 2021, vous êtes de nouveau confinés et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut.
Le quatuor infernal habituel dans un bar clandestin.
Exactement.
Qui fait des soirées privées.
À 400
sur
balles
deux.
La bière, l'intérêt est de bonne.
Non, non, c'est moins cher et c'est meilleur.
Ici, oui.
Est-ce qu'on peut avoir des gnocchis cramés en tacos, s'il vous plaît?
Oh putain. Le pire, c'est qu'un mec pourrait servir de la merde, ça marcherait. Bon, on a dit qu'on faisait pas ça. C'est pas bien. Ah, voilà des bruits comme j'aime les entendre. Au programme de ce soir, parce que Mecton s'est retrouvé. Il s'est retrouvé piégé dedans. Nous allons parler de Monster Hunter Rise.
Bah, c'est-à-dire que j'ai acheté un Amiibo et il filait un jeu avec les cons.
C'est à peu près ça en plus. Nous parlerons également de nos jeux de confinement. Ce sera le. Puisque là, on est officiellement confiné.
Enfin, il paraît, ouais, il paraît.
Bah, c'est-à-dire que les écoles sont fermées. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de considérer qu'on est confiné. Voilà, ouais, c'est plus comme ça que je le vois. Et donc, bah, nous allons parler de jeux de confinement, donc les choses bah, auxquelles on joue en ce moment nous, qu'on vous conseille éventuellement de jouer, des petites choses, voilà, des petits jeux qui passent un peu sous les radars en général, où on n'a pas forcément toujours le temps, ni l'énergie, ni l'envie d'aller écrire une critique un peu complète, ou d'y aller y consacrer une émission complète, parce que ça n'en vaut pas toujours la peine, mais qui méritent qu'on glisse un petit mot quand même, parce que c'est quand même des jeux agréables. Mais... Alors, on va commencer tout de suite par notre tour de table de l'actualité. Je laisse la main à Monsieur Mecton avec une nouvelle barbue.
Ah oui, Smooth McGroove, le barbu qui chante. Eh bien, il est
retour.
De retour.
Tour.
T'as failli dire Smooth Barbu.
Ouais,
Smooth Barbu McGroove.
C'est le tape, hein, la binge, là, putain. Ouais, bah c'est cool. C'est, donc, pour ceux qui connaissent pas, allez vite voir ce qu'il fait. C'est un gars qui fait des reprises de zik de jeu, mais tout a cappella. En faisant lui-même toutes les voix, en s'enregistrant voix par voix, et en faisant après une petite mosaïque de vidéos pour que ça soit rigolo à regarder. Quoi.
Avec
c'est
son
très
chat.
Très cool.
Je précise, la grande star du truc, c'est quand même le chat.
Mmh. Et le chat est toujours là, ouais.
Et on sait pourquoi il a fait une pause aussi longue ou pas?
Il l'avait expliqué. Il avait fait toute une vidéo pour dire c'est pas comme ça que ça marche la vie, tout ça. Il avait expliqué longuement pourquoi est-ce qu'il arrêtait à ce moment-là et que peut-être un jour il reprendrait, et puis du coup, bah, il prend.
Ok, voilà, bah voilà donc, c'est cool, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, surtout qu'il a repris, je crois que c'est un morceau de...
New Super Mario sur DS.
C'est ça, qui est magnifiquement repris d'ailleurs. Je vais enchaîner avec Monsieur Antix, qui nous proposait de nous parler de Sony Japan Studio, mais que tu t'es cru sur Sony Dojo FR, ou c'est quoi le...
Non, c'est important de s'intéresser à ce qui se passe à côté...
Non.
Attends, en plus, tu me l'as validé.
Non, oui, je valide parce que c'est vraiment intéressant. En plus.
Alors, en fait, c'est quelque chose sur lequel je n'avais pas prêté attention au début parce que ça concerne un peu Sony et c'est vrai que leur actualité me passe un petit peu au-dessus. Mais ces derniers mois, on a eu beaucoup de départs du côté du Japan Studio de Sony. Alors, pour résumer rapidement de quoi on parle, c'est le studio qui est responsable de pas mal de titres assez iconiques, notamment des deux premières PlayStation. Ceux qui sont responsables de Ape Escape, de toute la trilogie de Fumito Ueda, donc Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian. Ils sont aussi responsables de Knack.
Voilà, pas... Donc, pas que des réussites. Hein.
Pas que des réussites. Gravity Rush aussi, qui est un jeu qui est très très cool.
Oui, excellent, oui.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai pas fait le second. Et ça pour dire, ouais, voilà, on a eu pas mal de cadres, de gros cadres qui studio, des gros noms qui sont partis, sûrement aussi des personnes moins connues. Alors, je pourrais citer des noms, je suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde, mais le plus gros, c'est Keiichiro Toyama, qui est entre autres connu pour être le créateur de Silent Hill, à l'époque où il était chez Konami, avant de venir faire Siren et Gravity Rush. Et lui, il s'est barré avec deux autres potes pour fonder son propre studio. Les producteurs de Bloodborne aussi se sont fait la malle, sont partis, et Gavin Moore, qui était directeur créatif sur Siren et The Puppeteer, un titre un peu plus confidentiel, qui ont conquis le studio voilà, durant les 6 derniers mois. Et ça vient pas de nulle part, parce qu'en fait il y a eu une grosse restructuration du studio en 2020 avec beaucoup de fins de contrat, ce qui est le cas notamment des noms que j'ai cités juste avant. À la tête du studio, on n'a pas un japonais, mais un français qui s'appelle Nicolas Doucet, qui est notamment connu pour être à la tête de la team Asobi, responsable de Astro's Playroom, qui est un petit peu la gemme cachée de la PlayStation 5. C'était un petit peu une espèce de Wii Sport.
Fameux jeu qui était en téléchargement gratuit quand t'avais une PS5 et qui montrait toutes les capacités de la nouvelle manette DualSense.
C'est exactement ça, en doublé avec un hommage à l'histoire de PlayStation et...
Avec des bruitages faits par Jean-Michel Bruitage.
Tout n'est pas parfait. Hein.
Ouais, bon partout. Hein.
Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de moyens.
C'est dans le générique de fin. Ils mettent remerciements spéciaux, Jean-Michel Bruitage.
C'est
Naf.
Putain.
Excellent.
Des références françaises dans un japonais.
De belles références, faut le dire.
Donc voilà, donc il y a eu plusieurs fins de contrat et
Est-ce que ce français qui vit au Japon qui se fait virer, on va le retrouver au Liban?
Ah non, mais lui il se fait pas virer, au contraire, il est là. Est-ce qu'il passera dans une malle, on ne sait pas. Donc, peut-être dans une PlayStation 5 qui sera cachée.
Stop.
Il y a la place.
Stop.
Non, Nicolas Doucet, lui, par contre, il n'est pas viré. Il est devenu le directeur du studio en 2020. Et à partir du 1er avril 2021, c'est une communication officielle de Sony. Tout le studio va se centrer sur la team Asobi, donc responsable de Astro's Playroom, avec en complément Polyphony Digital, qui est connu pour Gran Turismo, et tout ce qui va être gestion des licences et compagnie du studio sera fait par les PlayStation Studios, qui est l'espèce d'entité globale que Sony a créée. Récemment, afin que tous ces studios first party puissent collaborer ensemble, y compris ceux aux US.
Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est surtout il y a une grosse réorganisation en interne, peut-être pour tout un des questions de logique, de cohérence, de coûts, forcément.
Alors, c'est des questions commerciales aussi. Hein.
Et derrière, il y a des gens qui sont pas contents, donc ils s'en vont.
Alors, il y a des
fins laisse partir.
Il y a des fins de contrat. Il y a des gens, à mon avis, qui s'en vont de même. Il y en a qui sont partis plus tôt que prévu, a priori. Et en fait, ça s'inscrit un peu dans une stratégie globale de PlayStation. En fait, depuis 2016, les décisions concernant la marque PlayStation sont faites aux US et puis au Japon. Tout est géré par une équipe en Californie et notamment les conceptions des deux dernières consoles, la PS4 et la PS5. Et là, le souci aussi qu'il y a au niveau du Japon, c'est qu'en fait, les jeux du studio japonais fonctionnent plus. Enfin, c'est beaucoup de temps de développement pour des ventes assez ridicules comme The Last Guardian ou des titres vraiment confidentiels. Enfin, je pensais à Gravity Rush qui reste un bon jeu, mais...
sur Vita.
Qui a été ressorti sur PS3 ou 4 en remaster de mémoire. Parce que je l'ai fait sur console, moi.
Ok.
Et en fait, c'est des bruits de couloir et des choses qui remontent un petit peu, mais en fait, en interne et notamment chez la direction, ils sont plus satisfaits en fait de ce que produit ce Japan Studio. Donc c'est pour ça qu'ils tranchent un petit peu dans l'art et qu'ils gardent que globalement ce qui fonctionne, à savoir les jeux Astro pour l'instant. Et comme je disais, on a un côté très occidentalisation de Sony au niveau de sa marque PlayStation, parce que la PlayStation marche plus très bien au Japon. Ça c'est un peu la suite. Les départs font partie des conséquences de ce genre de choses. À titre d'exemple, la PlayStation 4, elle a toujours pas dépassé les 10 millions d'exemplaires au Japon depuis 2013, alors que la Switch qui est sortie il y a 4 ans, elle est déjà à 15 millions. Et on parle de la PS4, une console qui s'est vendue à 100 millions d'exemplaires.
C'est-à-dire que la PlayStation suit une pente plutôt descendante au Japon, dans le sens où la PlayStation a été un grand succès au Japon. Une fois que la Saturn s'est un peu cassé la gueule, parce que la Saturn a été un très grand succès au Japon.
Les deux premières PlayStation, c'est des énormes succès populaires au Japon.
La PS3 a déjà moins bien marché, mais en fait elle a moins bien marché très relativement, parce que le truc c'est qu'en face il y avait la Xbox 360 qui marchait absolument pas.
La PS3 au Japon, c'était la plus vendue des deux, mais c'est parce que l'autre se vendait pas. Hein.
C'est exactement ça, et en fait la PS4 descend, la PS5... Pardon ?
La One non plus marchait pas au Japon.
Non, de toute façon, les consoles de Microsoft au Japon, c'est...
La 360 a eu une espèce de début de vie un peu fonctionnel, parce qu'ils ont eu quelques RPG japonais, et puis après, on n'a plus entendu parler. Hein.
Oui, tout à fait. Non mais voilà, c'est...
Eh ouais, c'est ça, faire des jeux avec un imaginaire bichrome.
Oui.
Je suis pas sûr que ce soit le seul problème.
Enfin bref, bon, de toute façon, c'est
En plus, maintenant, chez Sony, ils censurent, contrairement à Nintendo. Un petit peu.
Ouais, un petit peu, mais enfin, c'est vite fait quand même. Donc j'ai effectivement l'impression qu'il y a une américanisation de Sony, qui est peut-être pas un mal d'ailleurs. Après, c'est peut-être aussi pour rebondir. Hein. Finalement, réorganiser, ça permet aussi peut-être d'aller récupérer d'autres talents pour faire d'autres choses.
Bah, il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, enfin les grosses ventes de jeux, c'est des jeux américains. Hein. C'est God of War, c'est Uncharted.
Ah, complètement. Ouais.
C'est pas du tout les jeux du Japan Studio, qui restent des jeux assez confidentiels au final depuis. Je dirais même depuis la création du studio, parce qu'au final. Dans les jeux que j'ai cités au début, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait des énormes ventes, en fait.
Alors moi, je me pose quand même une question, à savoir si ces jeux-là marcheraient pas mieux en Europe par hasard qu'aux États-Unis. Ça me choquerait pas.
C'est une bonne question.
Lesquels?
Les jeux un peu arty, tu sais, okay. En Europe, on a...
Multichrome.
Shadow of the Colossus, c'était relativement monochrome quand même, hein.
Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en Europe, on a une certaine tendance à apprécier le jeu vidéo japonais de manière générale. Il y a une espèce de passion du jeu vidéo japonais qui est réelle. Un vrai amour du jeu vidéo japonais, notamment en Occident. Enfin, en Occident de manière générale, mais en Europe en particulier. Et en Europe, on a tendance à aimer les jeux qui sont un petit peu plus artistiques, un petit peu plus travaillés sur ces aspects de narration et tout ça, qui n'est peut-être pas le cas aux États-Unis. C'est-à-dire que... Alors, je dis pas que c'est...
Si, tu dis, c'est des gros bourrins.
Non, mais... Oui.
Mais je peux dire qu'ils ont pas de goût, il suffit de voir leur jaquette.
Bah, exactement. J'ai l'impression, c'est, faudrait regarder, hein, peut-être que faudrait demander à Oscar, par exemple, d'avoir les chiffres. J'ai l'impression qu'un Shadow of the Colossus, par exemple, se vendra beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Peut-être que le premier marché, c'est le Japon. Mais je me demande même s'il se vendrait pas mieux en Europe qu'au Japon. Simplement pour des questions de démographie.
Après, Shadow of the Colossus, ça reste des jeux de niche en termes de... Enfin, sur pas mal de plans, c'est vraiment des jeux qui sont en dehors des carcans du jeu vidéo habituel depuis...
Oui, tout à fait, non mais après...
Que ce soit leur époque ou maintenant, d'ailleurs. Hein.
J'ai pas dit que c'était des bons jeux. C'est pas gentil.
Moi, j'aime beaucoup Shadow of the Colossus, même s'il était pas du tout fait pour être sur PS2.
Non mais voilà, mais j'ai pas dit que c'était des bons ou des mauvais jeux, je dis juste que c'est des jeux qui s'adressent à un public qui voilà. Le public occidental, enfin le public européen, il est peut-être plus sensible que le public américain. Je rappelle que certains jeux ne sont sortis en Europe, enfin étaient prévus pour ne pas sortir aux États-Unis, je pense à Xenoblade Chronicles, je pense à The Last Story, ouais. Alors qu'ils sont sortis en Europe, et en Europe ils sont sortis, mais c'était parfaitement prévu dans les calendriers. Hein.
Ah oui, aucun
problème là-dessus.
Ça pas été en train de dire que les Américains n'ont pas de goût.
C'est pas ce que je dis, mais bon...
C'est, disons qu'ils n'ont pas les mêmes goûts.
C'est pas les mêmes goûts. Mais je le comprends.
Et pour le coup, l'Europe est un continent... alors peut-être moins maintenant, mais notamment la France, c'est un continent qui est très PlayStation. Hein.
Oui, tout à fait. Non,
mais à part le Royaume-Uni... L'Europe est un continent. Oui.
Oui. Non, à part le Royaume-Uni, où effectivement la Xbox a toujours très très bien marché. C'est vrai que pour le reste... Bref, nous allons enchaîner donc. Je vais vous parler. Ah oui, il y a la petite opération. Regarde le RGPD et nique-le bien. Lol.
Oula, on va parler de WeMedia.
Ah bah oui. Alors, je rappelle que maintenant sur WeMedia, vous pouvez payer 2€ par mois pour ne pas avoir de cookies publicitaires ciblés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pub. Il n'y aura pas de cookies publicitaires ciblés. C'est le moment que nous avons choisi au dojo pour vous. Comment dire? Vous recommandez uBlock Origin, donc une très bonne extension pour votre navigateur Firefox qui vous permet d'aller dire à WeMedia de mettre son doigt dans son cul et de le sentir. Voilà.
Ça marche aussi avec Google.
Sinon, vous allez sur des sites de qualité comme le Dojo.
Exactement. Non, mais enfin, voilà, c'est lamentable. Surtout que, alors, je vais me renseigner, mais je pense que c'est totalement illégal.
Mais
alors,
je pense aussi. Ouais.
C'est pas le seul, hein, parce que t'as d'autres sites qui te disent...
Tous les sites WeMedia, hein, c'est Allociné, c'est JV.com, c'est... Il y en a plein d'autres. Et si pour WeMedia, c'est une grosse boîte.
Oui, c'est ça, il y en a plusieurs qui disent si vous voulez pas de cookies, bah faut CP Wall.
Voilà. Ce qui est quand même absolument débile parce que c'est vous voulez pas de cookies personnalisés. Je rappelle que les cookies de publicité personnalisée, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir refuser, qu'on doit pouvoir refuser gratuitement, normalement. Il ne devrait pas y avoir de contrepartie financière pour ce genre de choses-là. Donc je pense que c'est illégal. Je sais que l'UFC que choisir est déjà sur le coup et je
la
pense
aussi,
que ça va taper. La CNIL aussi, enfin. Voilà, je pense que WeMedia va en prendre plein les dents et c'est quand même bien fort leur cul. Coucou WeMedia, ouais. On ne t'aime pas. Voilà. Et je voudrais finir ce petit tour par Monsieur Mecton qui a une nouvelle triste pour nous tous.
Alors c'était laquelle? C'était le SMB?
Oui.
Ouais, ça c'est cher hein, comme cartouche maintenant, putain.
Donc il y a un Super Mario Bros. Je vais te l'enlever de la bouche parce que je connais très très bien le sujet. Donc,
vas-y,
Un Super Mario Bros.
Et je me balancerai mon troll à la fin.
9 sous blister, mais pas le blister, c'est le blister d'origine.
Anti-vol, là.
Non, justement, c'est le blister d'origine, celui qui était juste plié dessus. Donc c'est le blister qui est dit single fold aux États-Unis. Donc c'est en fait un des tout premiers Super Mario Bros. Sortis. Donc c'est probablement un des Super Mario Bros. Du batch d'essai qui est sorti à New York, dans le New Jersey et à Los Angeles en 85. Donc c'est très précis. Hein. Qui est donc neuf, il n'a jamais été ouvert. Il a été gradé par Wata, qui est donc qui faisait à l'origine du grading de comics. Hein, les comics, il y a des critères très précis pour donner une note en fait de 0 à 10 sur leur qualité. Et donc c'est un Super Mario Bros. Donc premier batch, 9 jamais ouvert, gradé 9,8 sur 10 par Wata, qui s'est vendu $600,000.
Et si ça se trouve, il marche pas.
Ça, ce serait le côté drôle, mais comme il n'a jamais été ouvert. Alors la connerie là-dedans, si... Un jour, il faudra qu'on fasse un tout petit sujet là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à en dire.
Sur la spéculation ?
Alors, pas sur la spéculation, sur le fait de grader, enfin de noter, comme ça, d'évaluer des jeux. Parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs sociétés américaines qui le font aujourd'hui et une société japonaise de mémoire qui le fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable standard universel sur le sujet. Donc, si tu fais grader le même jeu par Wata, Heritage Auction et je sais plus comment ça s'appelle, le troisième, il y en a même un quatrième, je crois, maintenant, les notes peuvent varier, ce qui n'est pas normal. Normalement, quand tu fais évaluer un comic book, il y a des critères extrêmement précis qui sont codifiés pour dire quelle note il doit avoir. Donc, ça pose problème et ensuite, il y a tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas vérifier. C'est-à-dire, techniquement, si tu refais un scellé par-dessus, bah, personne pourra aller vérifier.
Ok. Ouais, c'est comme si tu changeais l'étiquette d'une bouteille de pinard. Quoi.
C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quand même assez compliqué. Donc il y a plein de choses qui ont attrait à la contrefaçon et au fait que ça devient un marché spéculatif un peu dangereux et un peu débile. Et autant il y a des pièces pour lesquelles ça se justifie. Il y a des pièces et des prix pour lesquels ça se justifie. Faudrait en reparler un jour, mais voilà. Mm-hmm. J'ai notamment vu un GoldenEye Nintendo 64 9. Se vendre à 1500 ou 1600 dollars, je pense que ça peut se justifier. Très honnêtement.
C'est cher, mais ça reste pas complètement délirant.
C'est très cher, c'est un peu délirant pour ce que c'est. Mais c'est pas non plus totalement délirant. Et je peux comprendre que des gens aient envie d'avoir ça et à ce prix-là, ça peut se justifier. Voilà, surtout que il y a aussi le fait que ce soit lié à la licence James Bond et tout ça qui fait que ça rajoute un petit peu de valeur. De la même manière que il y avait des gens qui je crois que c'est un jeu Spider-Man ou je sais pas quoi, un jeu Spider-Man sur je sais plus quelle console qui s'était vendu pareil 9 sous blister très cher, mais parce qu'en fait il s'est vendu à un collectionneur de Spider-Man. Donc il y avait une logique si tu veux derrière ça.
Ouais. Un acharné, mais un gros passionné qui s'est fait plaisir.
C'est ça. Qui s'est fait plaisir et qui se dit bah c'est bon, j'ai déjà tous les comics Spider-Man en état d'origine avec les bonnes notes et machin, bah je vais commencer à collectionner les jeux vidéo, je les veux dans le même état que j'ai les comics. Ça peut se justifier. Là, un Super Mario Bros, enfin, je veux dire, c'est quand même un des jeux les plus communs de l'univers.
600 000, le mec qui l'a acheté, je me demande s'il bouffe des gnocchis à 400 balles, quoi.
Bah, le problème, en fait, de ce genre de choses-là, c'est que c'est des marchés purement spéculatifs. Le mec l'a acheté 600 000 en espérant le revendre 750 000 dans 6 mois, quoi. Et c'est pas la première fois qu'il est vendu cet exemplaire-là, précisément. Parce qu'il y en a pas 150, en fait, des exemplaires avec ce single fold seal d'origine. C'est finalement des choses assez rares. Alors, la rareté de l'objet est réelle. Mais ça n'empêche pas que ce sont des objets manufacturés qui existent à des milliers d'exemplaires dans des dizaines d'états, et je ne serais vraiment pas choqué qu'un jour quelqu'un ouvre un entrepôt abandonné depuis des années et qu'on retrouve un carton complet avec ça s'est déjà vu. Moi j'ai personnellement dans ma collection un Game & Watch qui en fait vient justement d'un batch de Game & Watch qui avait été retrouvé comme ça, et qui est donc un truc hyper commun puisqu'on en a retrouvé un carton non déballé, donc j'ai un Game & Watch non déballé machin, je sais qu'il vient de là.
Ok.
Donc il y a plein de choses comme ça où ça me fait assez rigoler. Il y a notamment un collectionneur américain assez connu. Alors, j'ai plus son nom en tête là, parce que j'ai pas vraiment préparé le sujet. C'était plus qui disait vous me faites marrer avec Stadium Events. Donc Stadium Events, c'est le jeu théoriquement américain le plus rare sur NES. Donc il vaut des fortunes à chaque fois.
Il y en a 10-15 dans le monde, c'est ça ?
Alors non, justement, il est évalué à 1500 ou 2000 exemplaires existants.
Ok.
Donc en boîte, t'imagines à peu près 10%. Et le mec disait, tu rigoles, dans ma cave, j'ai six cartons de 6. Bon ouvert. Bon, donc, c'est un peu ridicule. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bref, nous allons marquer une petite pause musicale. Je vous ai réservé un petit morceau de Derrière les Fagots qui fait très 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 plaisir. Alors j'ai été chercher relativement loin.
Piou piou.
Tout à fait, puisque j'ai été chercher la bande originale de Star Wars Republic Commando. Alors il faut savoir que cette bande originale avait été lâchée gratuitement par LucasArts sur le site du jeu au moment de la sortie. Ce qui est quand même très 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 gentil. C'est composé par Jess Harlin, c'est tout à fait dans l'esprit des films. Et le jeu sort sur Switch dans quelques jours, ou s'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs, en dématérialisé. Il est disponible dans quelques jours chez Limited Run, en version physique, donc profitez-en. C'est le moment d'en reprendre.
Il y a Doom aussi qui est dispo.
Qui est dispo depuis une semaine, je crois.
Ouais, semaine dernière.
Exactement.
Avec un très beau collector où il y a les trois dedans, avec tout un tas de bordel.
Voilà. Ça a l'air d'être effectivement très très chouette. Bref.
Mais même la version pas collector, il y a les trois dedans.
Exactement.
Oui, oui, bien sûr.
Et là, t'as des goodies en plus, et des figurines, et des poupées, et des cartes postales, et tout un tas de cochonneries qu'on adore. Bref, donc on va s'écouter ce morceau de Star Wars Republic Commando. Le morceau s'appelle... Alors, attendez, j'ai rien exactement. Vodé Anne. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oui, bien sûr.
Alors, attends, si je le lis à l'envers, non, ça ne veut rien dire non plus.
Night Vod.
Non, j'en sais rien.
Ah, attends, qu'est-ce que je lis ? Oui, une attaque des DOSS sur les cours en ligne. Ah, putain, encore un truc des Russes.
Exactement ça. Bref, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. Ah, tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et nous allons malheureusement parler de Monster Hunter Rise.
Oh, malheureusement. Non, bien alors, obligé, le truc
monsieur Mortal.
Monsieur, mais oui, quelle intimité.
Le truc a claqué 5 millions en une semaine, on est un petit peu obligé d'en parler. Quoi.
Non, justement,
on parle jamais de Pokémon. Hein.
Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les jeux indépendants de Sony Japan Studio qui ne marchent qu'en Europe, parce que ce sont des jeux très indépendants. Bref, donc tu as acheté un amiibo Monster Hunter Rise, il se trouvait qu'il y avait un jeu dedans.
Il y avait un jeu dedans, truc de malade. Ouais. La jaquette était jolie, il y avait un beau steelbook avec d'ailleurs. J'ai mis le jeu dans la console, ça a fait un petit update pour débloquer la possibilité de scanner les amiibo. Je l'ai lancé, et ben, je me suis fait happer dans le truc en fait. Alors,
est-ce qu'on...
Disclaimer.
Voilà, faut-il revenir à la base de Monster Hunter, donc série de Capcom, dans lequel on incarne un chasseur de monstres, comme son nom l'indique, et donc on va aller chasser des monstres pour récupérer du loot qui va permettre d'aller forger des armes, qui va permettre d'aller chasser d'autres monstres. J'ai bien résumé ?
C'est ça, c'est toujours la même boucle de gameplay, où en gros, c'est façon action RPG, sauf qu'il n'y a pas de système d'XP direct. L'XP, c'est toi, joueur, qui l'apprend à force de connaître... À force de connaître tes mouvements, les patterns des différents monstres, et en fonction de l'équipement de plus en plus robuste que tu vas arriver à choper, en fait, le gain de force se fait là, quoi. Oui, donc disclaimer, si jamais il y a des gros experts de Monster Hunter, parce que je sais qu'il y a des mordus de fous qui suivent cette série depuis le tout début, personnellement j'ai joué au 3 sur Wii, et depuis plus rien.
Alors alerte, personne ici ne connaît Monster Hunter. Hein,
alors mes plus grandes parties de Monster Hunter c'était pendant les petits fours E3.
C'est à peu près ça. Ah si, moi j'avais acheté Monster Hunter Try sur Wii, j'ai tenu 2 heures et après j'ai arrêté parce que ça ressemblait vraiment à un jeu de farming coréen et j'en avais marre.
Bah, c'est un peu ça. Hein.
Alors oui c'est ça. C'est ça mais...
Ah c'est le mais qui va nous intéresser.
Alors c'est le mais, je vais orienter mon mais sur... Pourquoi cet épisode m'a gaulé, quoi. Alors déjà, c'est ambiance Japon médiéval, petite tendance heroic fantasy. Le jeu, dès que tu le lances, il est incroyablement beau. Enfin, toute proportion gardée, il est très solide.
On sait si c'est le moteur
c'est RE Engine. C'est sûr.
Ah oui,
c'est le RE Engine. Effectivement, alors je précise quand même, je suis pas une pupute à graphisme, mais je dois bien reconnaître que il accroche à l'œil et ça fait quand même plaisir de voir un éditeur tiers se sortir un petit peu les doigts pour faire un truc propre sur Switch. C'est pas tous les jours.
Et puis surtout, le RE Engine, c'est vraiment un moteur PS4, Xbox One qui fait vraiment des merveilles. Enfin, pour avoir joué à Devil May Cry 5 et Resident Evil 2. Et du coup, savoir qu'ils ont réussi à le porter sur Switch de manière propre, c'est impressionnant. Hein.
C'est propre et t'as la DA qui va avec pour. Alors, c'est le RE Engine, mais tu vois qu'il y a certains effets qui sont,
oui,
qui sont bridés, c'est normal.
Monster Hunter World japonais. Aussi tourne sur le RE Engine de mémoire.
Lequel, pardon ?
Monster Hunter World, celui qui est sorti.
Je sais pas. Justement, normalement, je l'ai pas fait celui-là.
C'est ça. Et effectivement, tu vois que les effets de feuillage, d'herbe, de machin sont moins travaillés, mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même très joli, avec des persos très bien modélisés. Enfin, franchement, à part Nintendo qui fait vraiment des trucs quali et vraiment très jolis, et éventuellement Platinum, c'est vrai que quand tu regardes la qualité d'image d'un Bayonetta 2, ça fait quand même hyper plaisir. Ou d'un. Comment ? Ah !
Alors, pour le coup, Monster Hunter World, c'était pas le RE Engine, c'est le MT Framework qui était celui d'avant.
Excusez-moi.
Ok. Voilà, enfin, mais là, bref, tu vois, celui-là, la première baffe que tu prends, c'est donc le jeu commence, tu as un éditeur de personnages. Alors tu peux y passer des heures, hein, si tu veux t'éclater avec. Derrière, tu as une cinématique.
Est-ce que tu peux modifier la taille de sa bite comme dans Cyberpunk ?
Alors non.
Stop.
Non, mais son nez, oui, tu peux. Le
et
jeu
comme
commence.
Comme on dit, un grand nez, grande lunette.
Voilà, tout est dans la suggestion, ça reste japonais. T'as une cinématique qui s'enclenche où tu te dis ok, c'est du pré-rendu, c'est sympa, ils ont mis ça au début pour claquer, et là tu vois ton perso et en fait il a la gueule que t'as choisi dans l'éditeur, quoi.
D'accord, donc tu te dis merde, c'est pas pré-rendu.
C'est, alors je sais pas comment ils se sont démerdés, mais parce que derrière quand le vrai jeu commence, c'est un chouïa moins joli qu'en pleine cinématique, quoi. Donc voilà, le jeu commence, tu débarques dans un village. Je zappe la partie scénario parce qu'elle sert plus de background et d'ambiance pour justifier les différents PNJ qui ont tous une utilité, quoi. Le forgeron, le mec qui gère les mercenaires, la nana qui gère la cantine qui va te permettre de buffer ton perso avant de partir en quête.
Ça reste un jeu vidéo avec des personnages fonctions de jeu vidéo.
Exactement.
Voilà.
Et le village, ils pourraient le remplacer dans un menu comme ils ont fait dans No More Heroes 2, ça marcherait aussi, mais ce serait moins sympa. Alors le jeu est toujours le même, donc tu as toujours c'était 14 armes différentes. Et alors Antix, tu me demandais en off, est-ce que c'est chiant ? Eh ben je te réponds, ça dépend de l'arme que tu choisis. Parce que le 3, je m'étais fait chier. Enfin le jeu me gonflait, mais je jouais épée longue. Donc cette espèce d'énorme épée où tu mets des heures à lancer l'animation de ton coup pour finalement taper à côté. Là, j'ai essayé d'autres choses. Ben, y a des choses très rapides qui te permettent de te placer facilement, d'esquiver rapidement et de taper vite. Bon, tu tapes moins fort, mais t'as moins de chances de taper à côté.
Ouais, ce que j'avais compris, c'est le maniement des armes et la fluidité, c'est des choses aussi qu'ils ont un peu, sur lesquelles ils ont un peu bossé avec, je sais plus à partir du combien. Moi, je sais que dans World, World était réputé pour être justement assez souple là-dessus. Mm-hmm. Je sais pas si ça avait commencé avec le 4 ou avec le Génération qui était sorti sur 3DS, le 2.
Parce que pour moi, de mémoire, Monster Hunter, c'était quand même un système relativement rigide. C'est-à-dire que c'est un jeu en 3D tout beau, tout propre, mais c'est un peu comme Pokémon, quoi. Ce serait du case par case, ce serait pareil. Enfin,
alors,
c'était
ouais,
le cas, ça allait peut-être un peu moins.
Voilà, tu perdrais le côté où tu apprends les patterns des boss. Parce que globalement, le jeu, c'est un boss rush. Et par contre, oui, là je le place maintenant. Ils ont fait un gros boulot d'animation, c'est-à-dire que les bestioles ou toute la faune ou même ton propre personnage, les animations sont très très classe, quoi. Et si tu arrives justement à observer l'animation d'un boss, bah, t'as toujours ces petites feintes propres au jeu où en gros quand un boss va te lâcher une énorme attaque, il a un petit mouvement qui te l'annonce, quoi.
Ce qui est une des qualités de la série en général, c'est Comme t'as besoin des animations pour comprendre ce qui va se passer, c'est vachement bossé. Les personnalités des monstres qui sont vraiment les un peu les personnages principaux de la série, en fait. Enfin, on regarde dans Smash Bros.
Clairement.
On regarde dans Smash Bros, c'est pas le truc de Monster Hunter,
c'est le Rathalos,
c'est pas un des persos, quoi.
Non, bah c'est un des monstres qui a priori revient dans tous les opus de la série avec sa femelle.
C'est ça, mais du coup c'est logique quand t'as des personnages si stars que tes monstres qui vont être un peu le centre du jeu, tu bosses vraiment leurs animes pour que qu'ils aient l'air classe, qu'on s'en souvienne et compagnie, quoi.
Ah, c'est Pokémon, en fait.
Dans l'esprit, oui, non, sauf que tu les captures pas, tu leur pètes la gueule.
Et puis il y a pas d'animation dans Pokémon.
C'est vrai.
Non, mais c'est très très vrai. Alors oui, on parlait des améliorations. Alors encore une fois, pour moi, le saut est juste énorme depuis le 3. Hein. La première gigantesque, enfin qui fait super plaisir, c'est le jeu charge très rapidement. Et il n'y a plus les micro-chargements quand on change de zone sur la carte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la map est divisée en...
La map était divisée en espèces de cadrans finalement très restreints.
Numérotés. Et quand tu changeais de cadran, tu te prenais un petit chargement. Ça, tu ne l'as plus du tout. C'est l'exploration libre.
Ce n'est pas vraiment un open world pour autant. Ça reste une carte grande.
Ça reste une carte très grande. Il y a plusieurs cartes. Avec cartes... temple japonais, grande étendue de glace, il y a un désert, il y a un volcan, et après il y a une forêt, enfin je sais pas si j'ai encore accès à tout, mais voilà, c'est des maps assez étendues, découpées en petites zones, mais finalement ce découpage il devient complètement accessoire, je t'en fous maintenant. Et l'autre grande nouveauté de cet épisode, c'est ce qu'ils appellent le philoptère. C'est un espèce de grappin qui te permet de dasher. Alors à l'horizontale, en direction libre ou à la verticale. Et du coup, tu sens que dans le level design, ils ont fait un énorme travail sur la verticalité des maps. Il y a énormément de petits endroits cachés où il faut grimper pour récupérer une connerie. Connerie qui te servira dans ta quête. Et voilà, donc il y a beaucoup de mouvements très rapides liés à ce grappin, sachant que ces mouvements tu peux aussi les faire en combat. Donc comme c'est un système de combat où il n'y a pas d'auto-ciblage, donc ton perso il va taper devant lui ou légèrement autour en fonction de l'arme et du coup que tu balances, le placement est super important. Et si pour une raison ou pour une autre, ton placement est complètement foiré, ce grappin te permet de te replacer très rapidement, très efficacement. C'est assez jouissif. Et il te permet aussi de faire des espèces d'attaques super, entre guillemets, ou si tu arrives à bourrer un certain nombre de ces attaques spéciales sur le monstre, il va passer dans un état second qui te permettra de monter dessus pour le contrôler.
Le contrôler, c'est-à-dire
Tu le chevauches. Donc s'il y a un autre monstre dans le coin, tu peux aller marrer la gueule à un monstre avec un monstre. Ou comme tu dis, voilà, le balancer violemment dans un mur.
Alors attends, parce que je voudrais juste savoir un truc. Quand tu démarres une chasse, c'est toujours comme ça que ça fonctionne? C'est une espèce de mission, en fait?
Tu lances une quête depuis le village, voilà, tu te prépares tranquillement, et tu pars en quête.
Et tu pars tu pars en chasse. Mm-hmm. D'un monstre bien précis, on est d'accord? À chaque fois, c'est un seul monstre bien précis qui se trouve donc dans une zone bien précise de la carte.
C'est ton objectif, mais tu peux avoir d'autres monstres sur la carte.
D'accord. Et donc, en fait, tu peux te servir des autres monstres sur la carte pour aller attaquer le monstre principal et éventuellement lui faire plus de dégâts, ou l'inverse, aller chasser les petits monstres à côté pour farmer à côté.
Exactement. Sachant qu'ils ont leur vie à eux, donc tu peux... alors il y a des objets pour faciliter ça. Tu peux, en gros, attirer un monstre dans la zone de quête d'un autre. Et de là, ils partent en mode guerre des territoires. C'est-à-dire, toi, t'es tout petit à côté, ils t'ignorent complètement, et c'est Godzilla contre King Kong, quoi.
Ah putain, donc tu peux t'amuser à essayer d'affaiblir ta cible en appâtant un autre monstre qui lui sera éventuellement opposé. Alors, j'ai un cliché,
t'es un monstre
de glace, un monstre de feu, et puis voilà, quoi.
Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est cool, en fait, parce que c'est pas juste je vais y aller, je le tape. Tu peux
taper.
Ouais, mais tu peux y aller finaux. préparer un piège, mettre plein de bombes autour, la tirer dedans, attendez, tout faire
attendez,
péter.
Attendez, je ne suis pas d'accord. Y aurait-il de la subtilité? C'est pas du tout le genre de la maison, ça, monsieur Mecton.
Et alors, non, de base, il n'y en a pas. Il y en a pas. En multi, clairement, il n'y en a pas. En multi, les gens, ils n'ont pas le temps, ils foncent dans le tas, ils tapent. Mais en solo, tu peux si tu veux.
Ah, alors, c'est ce que j'allais te demander, justement. Du coup, tu as joué plutôt solo ou plutôt multi?
Voilà, c'est ça. Alors, c'est... Comment ça se passe le multi et.
Pour l'instant, plutôt solo. Parce que, donc, en solo, tu as un compagnon chat qui. Donc, bah, qui en gros joue ton assistant.
Ton paladin.
Ouais, ça, bah, c'est, mais là, pour le coup, ton, c'est vraiment ton
écuyer.
C'est ton jacouille, quoi. Moi, j'en ai fait un healer. Ah. Ça, voilà, il me soigne régulièrement. Si je me prends un debuff, il supprime le debuff. Ça va bien. Et la nouveauté, encore une nouveauté de cet épisode, tu as avec toi un chien. Donc qui, alors tes deux compagnons ont leurs propres équipements. Hein. Si t'as encore un peu de temps, une fois que t'as fini de changer ton équipement à toi, tu peux t'occuper de l'équipement de tes compagnons. Et ce chien, donc lui, il attaque. Il attaque avec toi. Ce qui peut des fois servir de leurre. C'est assez cool. En fait, quand le chien prend l'aggro du monstre, bah toi t'es tranquille pour aller réaiguiser ton arme dans ton coin. Et tu peux le chevaucher.
Pour aller plus vite.
Pour aller beaucoup plus vite. Et quand tu es en multi, donc tu peux y aller tout seul ou tu peux y aller avec ton chien. Mais pas avec ton chat.
Ah, ton chat, ça fonctionne pas en multi?
Non, parce que ton chat, clairement, c'est un joueur. C'est un demi-joueur qui est là pour t'assister en solo.
D'accord. Oui, c'est comme si t'avais un. C'est plus un compagnon IA qu'un PNJ.
C'est ça.
Quoi.
C'est ça.
C'est un trou du cul de chat, il fait un peu ce qu'il veut.
C'est un peu ça. Alors, je crois qu'il y a un comportement comme ça où il est en mode erratique, il fait un peu ce qu'il veut. Ça sert à que dalle, mais c'est rigolo.
Donc, au milieu du combat, il trouve un carton, il décide d'aller dedans et dormir. C'est à peu près, parce que c'est un chat.
Ouais. Voilà, bon, quoi dire d'autre? Alors, le multi, donc j'ai essayé rapidement. Alors, bah, c'est très simple à mettre en place. T'as un PNJ dans le village qui te dit, tiens, si tu veux jouer en ligne, go. Et à partir de là, donc c'est un système de lobby où si quelqu'un a commencé une quête, tu peux le rejoindre, ou tu peux partir toi sur la tienne. Il y a un système d'entraide, de multi-loot. Globalement, les objectifs sont les mêmes. C'est juste que là où en solo... Je dis un truc au pif, mais là où en solo, un monstre de type A aura 1000 points de vie, en multi, il en aura 4000.
D'accord, enfin, je suppose que c'est 1000 fois le nombre de joueurs ou une connerie comme ça.
Alors, je suis jamais tombé à moins de 4 pour l'instant, donc je saurais pas te dire. Et voilà, donc en multi, tout va très vite, parce que pas, ils ont simplifié énormément le loot. Je me rappelle sur le 3, quand tu t'arrêtais pour miner, donc il fallait que tu aies une pioche dans ton équipement pour taper sur un caillou, pour éventuellement looter un truc. Là, tu passes à côté, que tu sois à pied ou à d'autres chiens, tu passes à côté, tu appuies sur A, boum, c'est looté. Quoi.
Oui, en même temps, ils ont essayé de faire Minecraft, ils ont dit non, en fait, non.
Oui, non, mais en même temps, effectivement, c'est pas... Enfin, ça n'a pas d'utilité dans un jeu où l'intérêt principal est quand même plutôt... l'apprentissage des patterns des différentes
patterns
créatures.
De tes armes. J'insiste, voilà. Sur les armes, sur le gameplay de tes armes. Parce que là, j'avais l'impression de commencer à maîtriser la mienne. Hier, j'ai regardé un bout de streamer et le gars fait plein de combos et de coups. Je savais même pas qu'ils existaient, quoi.
Donc, il y a en plus un beau potentiel de progrès.
Oui, oui, mais sur plein de fronts. Tiens, dans les aides aussi, tu as de l'autocraft. Ça, sur le 3, tu ramassais des herbes, après il fallait aller dans un menu au tréfonds machin pour dire tiens, ces herbes, je veux en faire une potion. Là, t'as possibilité de cocher une case où quand tu vas ramasser une herbe, hop, transformer en potion direct. Quoi.
Et tiens, je pensais à un truc sur les armes. Tu peux changer de type d'arme en cours de jeu ou t'es bloqué dans la même?
Tu peux changer d'arme à n'importe quel moment dans le village, donc avant de partir en quête normale. Et sinon, en début, quand t'es dans une chasse, à n'importe quel moment où tu es dans un camp, il y a une tente qui te permet de changer tout ton équipement si t'as envie. Donc si jamais voilà, tu as un objectif d'un certain monstre, tu te rends compte que sur la carte que tu commences, il y a un autre monstre qui est sensible à la foudre, t'as pas l'équipement opti pour le tomber en 2 minutes, tu vas le changer et tu peux quoi.
Oui, okay. Puis si un type d'arme te plaît pas, du coup tu peux changer de type d'arme en fait.
T'as accès aux 14 armes dès le début.
Nice.
Ça c'est cool. Sympa.
Et il y a une zone d'entraînement qui est super bien foutue pour les tester et apprendre un peu les combos.
D'accord. Donc, en fait, on va appeler ça le journal de l'aventurier noob en terrain Monster Hunter. Pour l'instant, c'est quelque chose qui te plaît. Et en tant que, pas novice complet, mais quasiment, puisque finalement, le dernier jeu de la série auquel tu as joué, il a plus de 10 ans.
Ouais. Alors, pour moi, c'est le point d'entrée. C'est un très bon point d'entrée si, comme moi, vous voulez redonner une chance à la série. Si vous voulez lancer dans le online, donc je pensais d'abord torcher le solo avant de me lancer dedans, et en fait, ben le matchmaking est bien fait. Si tu tombes sur des joueurs gros niveau, enfin tout le monde est très accueillant, quoi. Il y a personne qui va te laisser dans son coin ou te traiter de gros noob parce que t'as foiré un combo parce que tu fais nimp.
C'est quand même plaisant d'avoir une communauté un petit peu accueillante aussi.
Ouais, c'est super bien. Et même tous les gens qui font des tutos sur YouTube ou sur Twitch, tu sens qu'il y a une volonté de partager ce qu'ils ont appris. Donc c'est vraiment cool. L'énorme manque, ça reste un chat vocal.
Ça reste Nintendo, j'ai envie de te dire.
Mais non, il y a le machin avec le téléphone portable.
Stop.
Non, parce que là, la communication à coups de stickers ou de phrases préfaites, il y a un moment, c'est limité.
Bah, je suppose que ça va quand on dit le monstre est en neuf, attaque avec ton épée, essaie de le prendre par derrière. Attendez, oula.
Mais ça doit vite
être limité.
À mon niveau, pour l'instant, c'est la chasse commence. Il y a 4 monstres différents sur la carte, plus des petits trash, des petits mobs à la con. Bah, tu vois toutes les icônes des autres joueurs qui rushent sur l'objectif. Donc, bah, tu fais pareil.
Oui, voilà.
Et puis roule, quoi.
Alors moi j'ai une toute dernière question avant qu'on passe à la suite. Est-ce que c'est un jeu où l'on peut se contenter de faire du multi pour progresser ?
Oui, c'est 2 arbres de quête complètement différents. Alors je te dis oui. À la base je voulais le faire qu'en solo et j'ai laissé sa petite chance au multi. Et arrivé à un certain point de scénario. Oh putain, il y a un truc que j'ai zappé, j'en touche un mot très rapide après. Arrivé à un certain point de scénario, le jeu te dit « Bon, bah t'es devenu trop fort pour le solo, fais cette quête et on te mettra le niveau équivalent dans le multi. »
D'accord. Ça, c'est
donc,
cool.
La dernière nouveauté, il y a des quêtes accessibles à partir d'un certain point et à partir de là, tu peux les faire autant que tu veux, comme tu veux. C'est un mode Tower Defense. C'est très rigolo.
The what?
Ouais, okay. T'as un mode Tower Defense. T'es dans une petite forteresse, faut placer tes installations, t'as des hordes de monstres qui arrivent, tu utilises tes installations, ou t'y vas avec ton couteau pour les flinguer, pour récupérer des objets qui te permettront de devenir encore plus fort, machin, pour aller taper des monstres plus gros.
Ok, bon bah, why not, j'ai envie de dire.
Les mecs, ils se sont dit, Flash Player est mort, il faut compenser.
Ouais.
C'est un peu ça. Bon, et bah du coup, on va marquer une petite pause avant de reparler de jeux de confinement, donc une espèce de pot-pourri de jeux dont on ne peut pas parler d'habitude et qui seront bien pour passer ce 3e, 4e, 20e confinement, je ne me souviens plus.
N-1.
Est-ce seulement un confinement?
On se croirait dans Dragon Ball. Hein.
Ah oui. Bref. Donc, nous allons nous écouter un deuxième morceau de la bande originale de Star Wars Republic Commando qui s'appelle The Jungle Floor. C'est toujours composé par Monsieur Jess Harlin et c'était toujours disponible sur le site de LucasArts au moment de la sortie du jeu. C'est d'ailleurs la seule manière dont il a été disponible pendant très longtemps. Voilà, le morceau s'appelle donc, je l'ai dit, The Jungle Floor. Ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour !
Et nous allons parler de jeux de confinement, c'est-à-dire les jeux qu'on joue, auxquels on a l'intention de jouer durant ce petit confinement en stop, ça suffit maintenant. Je vous rappelle, la loi E20, tu n'as pas le droit, monsieur. Non, je déconne.
Ah, ça va, c'est fumeur ici.
C'est un bar fumeur. Ah oh, putain, c'est un bar fumeur en plus, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir ton masque.
On va se faire repérer avec la fumée qui sort du bar. Hein.
Ça, c'est clair. Ouais. Alors, je vais commencer par Monsieur Antix.
Ouais, moi ça va être rapide. Hein.
Qui nous a proposé deux petites choses. Donc, voilà. Dont une très intéressante, je trouve, parce que tu fais même partie des gens qui n'étaient pas très convaincus par ce jeu et qui maintenant, je te vois régulièrement le lancer. Donc...
Ah oui, bah, en fait, moi globalement, depuis un mois, je tourne entre deux jeux qui sont Super Smash Bros. Et Hyrule Warriors.
Nice.
Alors, Smash Bros, du coup, bah, en fait, depuis le... Je dirais que ça fait depuis le premier confinement, et, enfin, surtout à partir du second, où je me suis joué, mais mis à jouer très régulièrement en ligne avec un pote qui a eu la console cette année. Et on a un peu atteint un niveau où on tryhard un peu comme des gros porcs à tester un peu tous les persos. Mais c'est vraiment un super chouette jeu de combat, je trouve. D'ailleurs, ça m'a donné envie peut-être de tester un peu, de revenir sur des jeux un peu plus classiques de combat. Il faudrait des gens pour sur qui taper. Et j'ai pu tester un peu Pyra et Mitra, donc ça me permettra d'en parler, qui sont vraiment des super persos en termes de gameplay.
Elles viennent de sortir.
Voilà, c'est ça. Est-ce que ce sont des persos cancer ou est-ce que ça va, c'est juste intéressant à jouer?
Alors, Mitra a un coup qui est vraiment chiant.
Son avant B,
voilà.
Il est chiant, hein.
Il se porte un peu dans tous les sens, ça a une bonne portée, et globalement, si le mec il essaie de fuir, bah, tu peux le poursuivre et le choper. Et c'est un peu compliqué à arrêter si t'as pas de projectile parce que bah tu sais pas trop où elle est. Apparemment son espèce d'esquive spéciale où quand t'esquives à la dernière minute donne des avantages assez bourrins quand tu sais t'en servir. Genre en fait sur un coup avec qui donne plusieurs fois elle va carrément annuler les dégâts du suivant. Enfin ça n'a aucun sens.
Ouais, c'est chaud à placer, ça équilibre.
C'est chaud à placer. Pour le coup Pyra est pas aussi abusée. Parce qu'elle est assez facile à empêcher de revenir, par contre elle fait des dégâts monstrueux, et effectivement son smash avant peut tuer très très tôt. Ça reste des bons persos, un peu dans l'esprit Zelda Check de Melee, mais ont vraiment plus réussi dans le sens où tous les coups normaux sont à peu près les mêmes, en termes de gestuels, c'est juste qu'en fait ils vont pas forcément avoir les mêmes effets, mais les animations vont être assez proches, et les petites différences sur les coups spéciaux, du coup sont vraiment fun à jouer. Donc ça c'était pour Smash.
Et donc le deuxième jeu.
Et donc Hyrule Warriors que qui rentrait en fait au début février. Je me suis acheté ce jeu-là et IS9 qui correspond un peu pour moi à une série de jeux d'action japonais fauchés. Mais c'est quand même rigolo d'y jouer parce que on tape et ça fait des gros chiffres.
Oui, bah, c'est à peu près ça hein, quand même. Hein.
Et, globalement, ils ont bien rempli leur office chacun dans leur catégorie. Et Hyrule Warriors, et ben c'était plutôt bon en fait au final. Ça reste un Dynasty Warriors et faut pas en attendre beaucoup plus en termes de gameplay, je trouve.
C'est lequel que tu joues? C'est le Hyrule Warrior
Breath of the Wild. L'ère du fléau. Je veux plus rejouer au premier.
Ah le premier, c'est compliqué de revenir dessus.
Mais c'est vrai.
Et là, on a un jeu qui exploite vraiment bien l'univers de Breath of the Wild, que ce soit les persos, que ce soit Zelda qui est vraiment mise en avant, c'est clairement le personnage principal, Link est limite à faire valoir, les différents prodiges, plus d'autres personnages que je ne dévoilerai pas. Et c'est bien fait en fait, je trouve qu'en termes de jeu, ne serait-ce que juste de navigation, ça reste un jeu où quand même il y a quand même beaucoup de farm et on fait beaucoup la même chose. Mais ils ont évité un peu le syndrome du premier Hyrule Warriors avec sa carte aventure de je sais plus combien de cases qui est interminable avec des cartes interminables. Là, toutes les missions qui sont pas des missions story, c'est quasiment que des petits trucs que tu peux finir en 10 minutes. Ce qui colle plutôt bien sur Switch. Y a très peu de friction dans les menus. Moi, je trouve que tout va vite. Ils perdent pas de temps avec des cinématiques d'introduction de personnages sur les combats. Enfin,
Ouais, et puis il y a plein de raccourcis pour faciliter la vie aussi.
C'est ça. Même les combats contre les boss sont extrêmement simplifiés. Parce que t'as plein de petits trucs pour pouvoir afficher leur jauge de points faibles et les tuer plus rapidement. Il y a certains personnages qui peuvent le faire d'eux-mêmes. Tu peux utiliser les techniques de la tablette Sheka qui ont été réimportées dans le jeu de manière assez créative pour certains. Qui peut être utilisé pour contrer certaines attaques. D'ailleurs, comment ça s'appelle
Zelda ne fait que ça. Hein.
Ouais,
attaques tablette Sheka.
Qui est assez bizarre à jouer au début, mais qui au final, début. Est très intéressante.
Au début, parce qu'après, alors, ça change. Ouais.
C'est ça, mais chaque personnage aussi a ses. enfin, dans le premier Hyrule Warriors, chaque personnage avait sa propre manière de jouer. Alors, c'est toujours des combos à base de Y, Y, Y et X,
oui, voilà,
c'est taper, taper, taper.
Globalement, tous les personnages, c'est Y, 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 X. Enfin, la base est pareille à tout le monde.
Voilà, mais t'as des timings un peu différents, t'as des animations différentes, t'as des portées différentes, t'as des aires d'effet un peu différentes.
Le
donc,
coup
faut quand même les jouer
différent.
Un peu différemment.
Et puis t'as des persos qui ont des gimmicks, alors on va parler d'Impa parce que c'est peut-être parce que t'as dès le début du jeu. Link est assez
Naruto.
Link est assez standard. Impa qui est globalement un des personnages les plus pétés du jeu. Hein.
Oui, clairement.
Son truc c'est de d'afficher les symboles sur les ennemis, de les absorber avec ses attaques fortes pour avoir des clones. Alors une fois que t'as les trois, bah, les barres de vie elles font.
Normalement tu roules à peu près sur ce que tu veux.
Accessoirement le framerate du jeu
roule aussi sur ce que...
Alors surtout en mode portable, il y avait des moments surtout sur la fin du jeu où le mode portable t'arrivais plus à suivre. Enfin clairement il était par terre, il était en train de mourir. Et voilà, moi c'est la plus grande qualité du jeu, c'est vraiment les différences de perso. J'en ai pas trouvé un qui était pas amusant à jouer. À part peut-être un des personnages cachés
ouais, je vois lequel tu veux
que
tu
obtiens au milieu du jeu, et encore même elle au final, en renseignant un peu, elle est pas si mal. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mauvais perso ou de personnages vraiment chiants. Bon, après, il y a des personnages à qui j'ai pris le plus de plaisir. Clairement, Urbosa est franchement un de mes préférés dans tout le jeu.
Ah, Urbosa, elle est. C'est marrant parce qu'en plus, c'est exactement comme ça que. Quand t'as fait Breath of the Wild, je trouve que c'est exactement comme ça qu'on l'imaginait combattre.
Ben, en plus,
exactement avec ce style-là, si tu veux.
Et puis, le plus claquement de doigts pour lancer les éclairs, je trouvais ça fun.
Ah ouais, non, mais c'est elle est encore plus grandiloquente, je trouve, que dans Breath of the Wild, où tu sentais déjà que c'était la grande gueule rebelle, ce trait, voilà. Je trouve que le personnage marche bien, en fait.
Elle est pas spécialement rebelle, je trouve que c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement sûr d'elle, parce qu'elle connaît son niveau, tu vois, elle est au sommet de Gerudo.
Mais c'est ça, en fait, ils ont vraiment super bien retranscrit, je trouve, la personnalité du personnage dans sa façon de combattre.
Bah, c'est ça, et puis en plus, un truc typique, quand tu tues les ennemis, elle fait bah, désolé, t'es tombé contre moi, hein. Allez, salut.
Mais voilà, donc c'est exactement ça.
Et d'ailleurs, dernier point sur lequel je me posais la question, est-ce que ça passerait un mousseau en VF, sachant que des personnages disent très très souvent la même chose, notamment lors des attaques spéciales, et ben en fait, ça marche. Et ça marche plutôt bien, il y a vraiment des très bons doublages. J'aime beaucoup Revali, j'aime beaucoup Urbosa. Et voilà, et en fait c'est plutôt un bon jeu. Alors clairement, faut pas s'attendre à du Breath of the Wild. Hein. Quand on essaie de grimper sur les murs, le jeu il fait haha, non, t'es dans un mousseau. mais c'est fun, ça passe bien. Et alors pour le coup, j'ai quasiment fait le 100%.
Et le scénar, il t'a accroché ou pas?
Et bah, j'ai beaucoup aimé le scénar en fait.
Sans spoiler, même passer le twist.
Alors le twist était facile, mais bon, en même temps, quand j'ai vu le début, je m'y attendais. Je sais pas, j'ai trouvé bien en fait que ils se sentent pas obligés de répéter la même histoire. Désolé.
C'est vrai. Tu vois, voilà. Je reste sur cette petite amertume de me dire si ça avait fini à la Torna, ça aurait été cool.
Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, cette histoire-là, on l'a déjà eu dans Breath of the Wild. Vraiment, ça a été montré.
Évoqué. Par contre, voilà, il y a quand même ce passage où là, pour le coup, la zik du menu change. Ou t'as c'est chaud, pas trop spoil, mais le passage du scénario où tu te dis tout est foutu quoi.
Ouais, il y a clairement un moment de désespoir et un regain par la suite. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette montée dans le scénario. Il y a vraiment des bons trucs. Enfin globalement c'est un très très bon scénario de shonen manga avec Zelda en héroïne principale. Et c'est assez chouette.
Et ça fait plaisir aussi, puisqu'on a on était nombreux à se dire ce serait drôlement bien pour Breath of the Wild que Zelda soit un personnage. Alors c'est un personnage extrêmement important, même si c'est pas elle qu'on joue. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu déçus qu'on puisse pas jouer Zelda ou qu'il y ait pas un petit mode bonus, un machin qui te permettrait de le faire.
C'est
et
ça.
Je trouve que ils ont énormément rattrapé ça justement sur Age of Calamity où elle est vraiment, enfin c'est vraiment elle la star. Alors épaulée par Urbosa, on va être clair, et Impa aussi parce qu'elles ont elles sont tellement plus fortes que Link que t'as juste envie de les jouer ces trois là. C'est étonnamment, Mipha est complètement effacée d'ailleurs. On s'y attendait pas. Mais voilà, mais je suis d'accord avec toi. Alors je rappelle qu'on a fait une émission spéciale justement sur Hyrule Warriors, donc si ça vous tente, vous pouvez aller la réécouter. Je pense que Antique, ça fait une très bonne synthèse de l'émission.
Ouais.
Mais on a un peu plus de détails dans celle-là, si ça vous tente.
Juste pour finir sur le scénario, moi il y avait deux petits trucs qui m'ont marqué, un en bien, en mal. En mal, c'est le côté, dans le scénario de Breath of the Wild, on a beaucoup la relation entre Link et Zelda est assez conflictuelle. C'est un truc que je trouve intéressant parce que de base, enfin Zelda aime pas Link et c'est un truc qu'on voit pas dans Age of Calamity.
Qui s'efface vite, je dirais.
Qui s'efface très très vite, alors que c'est clairement un point central de l'histoire de Breath of the Wild, au point que si tu vas dans la chambre de Zelda, dans le château d'Hyrule, et que tu tombes sur son journal, tu peux avoir son commentaire sur toutes les cinématiques que t'as vues dans le jeu, que je trouvais super intéressant, mais du coup là on l'a pas. Et le point que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu du spoil. Mais il y a beaucoup de du fait du twist, il y a beaucoup de récompenses sur des personnages et des scènes il y a des scènes assez émouvantes dans le jeu. Enfin, qu'on pouvait pas avoir dans Breath of the Wild, mais oui, qui du coup sont possibles dans ce jeu-là.
Donc c'est du fan service, mais émotion quoi, pas ouais, explosion.
Ouais, mais au contraire, moi j'ai trouvé que c'était bien et il y a deux personnages qui se rencontrent et j'ai trouvé que c'était vraiment réussi parce que j'étais content qu'ils puissent se rencontrer. Donc voilà.
Très bien. Je vais enchaîner avec Monsieur Zerny qui fait du rétro, qui fait de la GameCube et ça fait plaisir à tout le monde. Et qui a donc démarré Paper Mario, si je dis pas.
Je sais plus depuis quand j'ai Paper Mario qui traîne chez moi. Depuis l'été 2018, je l'ai téléchargé. Et je sais pas, il y a 2-3 jours, j'ai commencé à jouer sur émulateur, puis sur GameCube, puisque j'ai une GameCube bidouillée de partout. Et c'est bien, choisi. Enfin, j'ai 4-5 heures de jeu, là, j'ai buté le dragon dans le château, enfin, j'ai la première gemme étoile. Et. Je connaissais pas du tout la série. Donc.
Même pas les jeux récents, t'avais pas fait un Paper Mario?
Jamais.
Ok. C'est peut-être un des meilleurs pour commencer d'ailleurs, parce que Paper Mario sur N64 est peut-être un peu.
Ouais, il a peut-être pas le vieilli.
Non, globalement, je pense qu'il fait pas encore le taf. Mais vaut mieux jouer à Paper Mario 64 avant celui sur GameCube, parce que en termes de gameplay, celui sur GameCube a apporté pas mal de choses.
Je crois que mon porte-monnaie va dire non. Oui, on verra quand je rechopperai un Everdrive.
C'est-à-dire qu'en ce moment sur GameCube, ça devient compliqué.
Oui, mais la N64, ça doit être pareil.
Alors la N64, pas tant que ça, parce qu'en fait, comme t'as des... C'est encore une console où t'as des cartouches, et les cartouches, ça peut encore se trouver en loose, et en fait, les cartouches en loose, ça reste assez raisonnable.
Après, Mario, c'est un jeu de fin 2001, hein, donc il n'y a pas dû avoir beaucoup de production dans la version française.
Je ne sais pas, parce que le truc c'est quand même. Alors la plupart des cartouches de N64 contiennent au moins 3 langues en Europe. Donc tu as moins ce problème là que sur Super NES par exemple.
D'accord.
J'aimerais éviter d'y jouer en Asie.
Oui, non. Mais...
Ah, vaut mieux pas. Papa Mario, vaut mieux jouer.
Ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Par contre, je me dis qu'une version américaine ça doit pouvoir se trouver et ça doit pouvoir être potentiellement moins cher. Mais je sais que on parlait de collection un petit peu à la pause, c'est pour ça que j'en rajoute, mais c'est vrai que la N64, en fait, les prix n'ont jamais été extrêmement élevés, et en fait, je pense qu'ils ne le seront plus jamais maintenant. Je vois déjà la Super NES qui descend gentiment, alors ça reste... Les pièces exceptionnelles restent chères.
Après, c'est parce que tu peux trouver des jeux en support téléchargeable maintenant pour la SNES, donc il y a moins l'envie de récupérer la cartouche.
Ça joue aussi, mais clairement, il y a des modes dans ce domaine-là, et il y a des modes qui ont passé, et aujourd'hui, j'ai vu des jeux NES qui ont monté à des prix délirants, qui sont en train d'atterrir gentiment. Alors après, encore une fois, hein, les jeux très rares, les pièces exceptionnelles restent chères, de toute façon, tu n'y échappes pas, mais le tout venant est un peu plus accessible. Maintenant, oui, je suis en train de chercher un Final Fight 3 sur Super NES, ça coûte toujours relativement cher, hein, on va pas se cacher. Même en loose, c'est très cher. Mais globalement, je prenais comme exemple, par exemple, un jeu comme Adventures of Batman et Robin. Il y a 4-5 ans, ça s'est changé encore à 100 ou 120 bastos sans problème. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 60-70 euros. Ça reste très cher pour un jeu Super NES en loose, mais c'est beaucoup plus raisonnable. Donc ça descend. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est en train de passer de mode. Il y a des gens qui, je rappelle, ont grandi avec la GameCube et la Super NES, ça leur dit rien du tout. Hein. Et puis t'as des collectionneurs qui sortent de ce marché-là. On va vraiment faire cette émission collectionnique, mais dans 2 semaines. Parce que j'ai un invité spécial pour ça.
Ah, enfin.
J'espère.
Tel famoso. Mais je sais pas, pour moi c'est une bonne surprise. J'aime bien, ça joue tranquillement. Je fais des petites sessions de... DNR, donc on verra. J'espère que je l'abandonnerai pas en cours de route comme d'autres jeux.
C'est pour le coup, moi, enfin, on en avait parlé, on a une émission pour ça, mais c'est quand même un jeu qui gagne à être, à mon avis, qui gagnerait à être ressorti parce qu'il y a un tel niveau d'humour et de parodie de Mario que il reste encore assez exceptionnel dans toute la production de Nintendo, je trouve. Hein.
Alors, l'an dernier, mes jeux de confinement, c'était Trial of Mana et le Doom de 93 sur Switch. Donc, je sais pas quel sera le deuxième, on verra. J'ai The Messenger, quoi, encore.
Ah, The Messenger, ça peut être un bon jeu de confinement, ça.
Exactement.
Parce que ça peut bien se parcourir. Je vais enchaîner avec Monsieur Mecton, qui est tombé dans une routine. Alors, on a parlé de Monster Hunter tout à l'heure, donc effectivement...
Ouais.
Monster Hunter. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau du Animal Crossing.
Il y a une routine dans la routine.
C'est ça, c'est la petite routine... vérifier que tout le monde dans le village va bien, enlever les petites mauvaises herbes, et puis partir, envoyer le bateau en expédition dans Bravely Default, et le soir récupérer le loot de l'expédition, grinder un peu, aller péter la gueule à un boss, et puis lancer Monster Hunter, faire une quête ou deux, et puis lancer Hades, faire une run ou deux. Je vais jamais m'en sortir. J'ai un backlog qui s'empile.
On a vu ça.
Bah, c'est Majora's Mask.
Je t'ai déjà parlé de mon cauchemar où mon backlog essayait de me manger.
Ouais, dis-toi, moi j'ai rêvé que le chat avait pissé sur le backlog.
Ah merde,
c'est moche. Comme ça, t'en as plus.
C'est le problème de riche quand même. Réglé.
Non, mais là, ce sont des cartouches, c'est solide.
Je prends, ouais, puis elles sont encore emballées.
Et puis ils ont déjà le goût du pipi.
Eh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, je prends le premier de la pile, je pense que c'est celui-là qui va y passer en premier, peut-être en deuxième. Allez, il y a deux piles. Alors, premier de la pile de gauche, c'est Immortals Phoenix Rising.
Ça, moi, il faut aussi que je m'y mette. J'avais commencé, je me suis fait débouter par la connexion obligatoire Ubisoft. Mm. Mais ça a l'air très tentant. Et M. Caduceus, qui était venu à la toute première émission de la saison, ou la deuxième de la saison, et qui nous en avait parlé, nous avait dit que c'était vraiment bien et que ça ressemblait pas du tout à Breath of the Wild, et qu'en fait, c'était vraiment ça avait son propre univers et que c'était très sympa. Moi, ça m'a bien, bien teasé. J'ai bien envie de m'y mettre.
Et l'autre, la pile de droite, j'ai Ghost of a Tale. Alors, c'est un action RPG où tu joues une petite souris. Alors, j'ai vu le trailer, oui. Ce qui m'a vendu le truc, c'est l'animation de la petite souris qui m'a clairement rappelé Brisby et le secret de Nîmes.
Et la caméra très chelou, genre fisheye.
C'est ça.
Et genre, faut donner des sous aux enfants qui ont perdu leurs dents, c'est ça?
Alors non, c'est vraiment plus ambiance Brisby où genre il n'y a plus aucun animal, plus aucun humain, pardon, nulle part. Et enfin voilà, si jamais on joue une petite souris qui doit aller affronter des rats pour trouver de la bouffe pour donner à son enfant, ça va me rappeler quelques souvenirs. Ça a l'air cool.
Alors par contre, tu vas vite déchanter sur un truc, c'est que le jeu il tourne dans Unreal Engine 4 et alors avec une optimisation que je qualifierais de watch.
Damn.
Ça va être compliqué.
Damn, dommage.
Malheureusement, c'est un jeu multiplateforme.
Dommage. Tiens, il y a quoi? Il y a un Wolfenstein, faudra qu'on se fasse ça, un de ces quatre.
Oh, t'as un Youngblood, c'est ça?
Ouais, un Youngblood.
Ah mon dieu, faut qu'on fasse ça. Juste pour le LOL, faut qu'on le fasse.
Un Youngblood, il y a les deux Ori qui traînent, enfin non, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Par contre, je peux te donner tout de suite un jeu sur lequel tu ne t'amuseras pas, c'est Blossom Tales.
Blossom Tales, mais je l'ai déjà fait en démat.
Ah, et t'es amusé?
Alors, amusé, c'est. Bah, tous les puzzles, c'est des taquins, donc toi, ça a dû te faire chier.
Ah mais oui, clairement. Ouais. Puis en plus, je trouve le jeu insupportable.
Mais j'avais lu l'article de Tardy, je l'ai acheté. Non, j'ai bien aimé. Ce que j'ai trouvé très original dans celui-là, donc au-delà du côté clone de, enfin clone Lidl de Zelda 3,
de Link to the Past, quoi. Enfin, oui,
ouais. C'est le côté Princess Bride où t'as un narrateur en fait qui raconte l'histoire, mais comme s'il racontait l'histoire à un gosse à côté. C'est rigolo.
Oui, c'est rigolo, mais je veux dire, le jeu, je trouve, a pas grand-chose à raconter, et d'un point de vue gameplay, ça reste...
Ah, mais c'était... Rappelle-toi, c'était un jeu à 10 balles sur l'eShop, à la base.
Ah, complètement, non, mais c'est... Moi, dans le principe, ça me dérange pas du tout, tant qu'on sait où on met les pieds. Mon problème à moi, c'est quand tu rentres dans une salle, et que, finalement, t'as 40 fois le même monstre, et, enfin, je trouve ça un peu chiant, quoi.
Est-ce qu'on a East Origin? Je sais pas si c'est bien, ça...
Tu vas vraiment te faire manger par ton backlog.
Ah, c'est...
Alors, c'est sympa.
East Origin, moi je l'ai fait sur PC, ça se finit en 5 heures.
En 5 heures?
Ah!
C'est enfin, 5-6 heures, après si tu veux faire tous les persos, ça prend un peu plus de temps, mais. Moi je sais que j'ai kiffé. Hein.
Okay, justement, okay. Pour le côté court, taper les gros chiffres.
En fait, c'est c'est court, taper des gros chiffres et c'est super linéaire, donc tu sais que tu vas aller tout droit pour monter une tour.
Ouais, voilà, tu te laisses raconter l'histoire, tu réfléchis pas trop.
Ouais, l'histoire est pas folle. Hein. C'est vraiment, je l'ai fait pour les boss et les musiques. Hein.
D'accord. Donc tu mets le cerveau en pause et ça marche bien.
Ah ouais.
Là, c'est bien.
Voilà,
ça,
voilà.
C'est très bien.
Et sinon, bah comme on est en confinement, jouez à Inside et ne jouez pas à Moving Out.
Ça, c'est le jeu préféré des Parisiens, Moving Out.
mon dieu. Alors, Moving Out, ça fait partie des jeux où je crois que j'ai fait la démo, j'ai acheté le jeu, j'ai essayé de jouer à d'autres niveaux du jeu, je me suis dit, ah, mais en fait, il suffisait de faire la démo en boucle. C'est triste.
Ne l'achetez pas si vous êtes abonné Twitch, il est gratos en ce moment. Allez voir
surtout,
dans le petit
coffre
à côté.
C'est toujours la même chose, ça n'a aucun intérêt. Contrairement à Overcooked qui essaye de se renouveler, qu'il n'y arrive pas toujours, hein, j'ai bien dit essaye, pas toujours évident, Moving Out ne se renouvelle absolument pas.
Putain, dans le genre jeu qui se renouvelle pas, il y a le Pac-Man qui va sortir bientôt là.
Ah oui, on n'en a pas parlé dans l'actu, dis donc.
Ça va être cool.
Je pense que ça va être très cool.
Un Pac-Man Battle Royale, les gens.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait Battle Royale. Moi j'attends quand même avec une très 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 grande impatience. Je vais quand même
le Bomberman
que... Alors non, parce que Bomberman Battle Royale, j'ose pas imaginer le bordel.
Non, mais t'es pas 64 sur la même carte. Hein.
Ah bah, sinon ça n'a aucun intérêt.
T'es 64 sur plusieurs cartes qui se touchent, et quand il y a une au-delà d'un certain timer, c'est vraiment à la Fortnite, quoi. La zone de jeu qui se réduit, et à la fin des 64 petits carrés, ben, il n'y en aura plus qu'un. Donc s'il y a des gens qui sont morts, tant mieux. Si personne n'est mort, là oui, tu te retrouveras à 100 sur le même carré.
Enfin, moi je pensais à, comment dire, Home Alone... cette horrible jeunesse, Battle Royale. Je pense qu'il y a un truc à faire.
My God.
Pourquoi a-t-il suggéré ça? Moi, je suis rentré dans une alors, pas vraiment une routine, mais j'ai fait pas mal de jeux de course. Alors les jeux de course, c'est un peu les grands oubliés sur console Nintendo.
Bah, à part Mario Kart et j'allais dire F-Zero, mais
c'est un
Il y a Crash Team Racing.
Ouais,
Unstable.
Bah, en fait, c'est marrant
parce
que sur N64, le jeu de course, sur N64, il y a une ludothèque de 350 ou 380 jeux, un truc comme ça, et t'as genre 40 jeux de course.
En même temps, quand il y a eu la 3D, c'était un peu genre le genre à faire, parce que tu pouvais pas vraiment le faire en 2D très bien, tu vois.
Tu pouvais difficilement le faire en 2D, on est bien d'accord.
Et puis il y a eu Gran Turismo qui a fait, oh putain, on peut faire des voitures réalistes et tout.
Voilà, donc tu as eu une déferlante...
Oula, faut vite le dire, là.
Oui,
mais oui, on sait bien, c'est comme dire FIFA, c'est réaliste, quoi.
T'as eu une déferlante de jeux de course sur cette génération-là, t'en as eu encore un peu sur GameCube, t'as pas mal de jeux de course qui sortaient, alors c'était souvent des suites, c'est des Need for Speed, c'est des choses comme ça, mais t'avais quand même des choses qui sortaient qui étaient sympas. Et à partir de là, en fait, j'ai l'impression qu'à partir de... Alors, je sais pas si c'est Gran Turismo, celui sur PS3, ils ont un peu tué le truc, c'est-à-dire plus personne ne faisait de jeux de course. Et surtout, les jeux de course, c'était forcément toujours plus beau, et donc pas sur console Nintendo, qui était moins puissante, moins capable d'avoir ce genre de jeu-là. Donc sur Wii U, il y a un jeu de course. Si j'exclus Mario Kart, que je considère plus comme une espèce de party game... Hein.
C'est donc Sonic Racing.
Non, ah oui, il y en a deux. Oh mon dieu. Il y a un Need for Speed Most Wanted U,
ouais,
qui est très bon d'ailleurs.
Ouais.
Tiens à préciser, c'est vraiment un des très 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 bons jeux de la machine, avec des textures qui sont meilleures que sur la version PC.
Ah ouais ?
Parce que, bah oui. En fait, c'est la version 360 du jeu, mais avec des meilleures textures, parce que la Wii U a plus de RAM que la 360, donc les mecs se sont amusés à booster les textures.
Ok.
Donc c'est cool. Et bon, à savoir, donc c'est une excellente version du jeu, c'est vraiment c'est très agréable à jouer. Alors ça reste un open world, donc c'est... Je trouve pas hyper adapté à un jeu de course, mais les events sont plutôt marrants, ça se parcourt bien, quoi. Je veux dire, c'est un jeu Criterion, donc c'est plutôt de la qualité. C'est de l'arcade, ça marche bien. Je trouve que sur Switch, on en a un petit peu plus. Alors ok, c'est beaucoup du remake, mais il y a quand même des choses un petit peu intéressantes. Dans le lot, j'ai noté donc Need for Speed Hot Pursuit, qui est une remaster de la version 360, qui tourne très bien sur Switch, qui est très agréable à jouer. Alors c'est une série d'événements qu'on choisit sur une carte, donc c'est vraiment un jeu... Typé arcade, il n'y a pas d'open world, il n'y a pas de machin, c'est tu choisis l'événement, tu finis médaille d'or, tu peux faire l'événement suivant. Voilà, point. Et les événements sont nombreux, puisque tu as des poursuites, donc policiers contre voleurs, en gros. Tu as des courses simples, tu as du contre-la-montre, tu as de la course à l'australienne, où à chaque tour ou à chaque checkpoint, bah, le dernier est éliminé. Tu as plein de choses comme ça, très rigolotes. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt fun à jouer. Alors... pour le... Enfin, aujourd'hui, ce serait, je pense que ce serait difficile à vendre. C'est marrant de se dire qu'il y a 10 ans, on pouvait vendre un jeu comme ça, qui était juste des événements de course, et ça marchait, ça faisait un jeu complet. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué à vendre sous cette forme-là. Mais le fait est, pour le prix où il est, honnêtement, ben, c'est sympa. Moi, j'aime bien.
Il est à combien, Jean ?
Il est à 30 balles.
Ah, oh putain, c'est bon, ça.
Ou à 40 balles, mais enfin, je veux dire, il est vraiment à prix réduit.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, c'est cool. Pareil, Burnout Paradise, alors il est sorti il y a quelques mois, j'y avais joué il y a quelques mois, je l'ai relancé un petit peu récemment. Donc là, tu as plus un modèle open world que je trouve d'ailleurs pas forcément... Enfin, c'est un peu comme No More Heroes 2 dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça, t'aimerais bien pouvoir téléporter de temps en temps quand même.
Moi de temps en temps, ouais, ça m'arrangerait de pouvoir me téléporter, maintenant ça reste une carte très bien foutue. Puisque bah, c'est Paradise City, donc tu as un côté centre-ville très condensé avec des virages très serrés. Tu as la fameuse île qui s'appelle, je sais plus comment, Paradise Island d'ailleurs, je crois.
L'île DLC, là, c'est ça ?
C'est ça. Qui a une ambiance complètement différente, c'est assez rigolo. Alors ça reste de la ville, mais il y a un petit peu plus de plage, il y a un peu plus de choses comme ça. T'as un côté campagne, t'as la montagne, voilà. Et tout ça est relié de manière assez organique. Donc ça, c'est rigolo de parcourir cette carte-là. Et le truc, c'est qu'à chaque carrefour, il y a un event. Qui peut être une course-poursuite, un takedown sur un mec, du contre-la-montre, battre le trafic, enfin des choses comme ça. Assez rigolo. Voilà, pareil, plutôt fun, bonne prise en main, ça reste aussi du Criterion, donc on est comme à la maison. On peut faire des dérapages en appuyant sur Y pour faire du frein à main, ce qui sert absolument à rien dans la vraie vie. Il y a plein de voitures rigolotes. Voilà. Le jeu est, je trouve, un tout petit peu lourdeau sur la question de... Enfin, moi, j'aime pas trop les trucs où, effectivement, t'as pas vraiment de menu, mais c'est plus une carte sur laquelle tu te balades. Alors, c'est bien pour l'immersion, mais... Voilà, c'est... Je suis un peu moins fan de ça.
C'est quand tu veux réessayer une course que t'as foirée, des
ouais,
fois, c'est chiant.
Ouais, c'est un peu quoi. Chiant, quoi.
T'as essayé les motos ?
Alors, j'ai essayé les motos, je trouve ça, un jour.
Ça va vite, hein.
Ça va vite, mais c'est. Enfin, moi, je trouve ça n'a aucun intérêt sur un jeu qui a une physique comme ça, en fait. Mais voilà. Mais après, voilà, il y a des trucs très rigolos, il y a des véhicules gags. Enfin, voilà. On se marre bien. Je trouve que ça marche assez bien. Et récemment ressorti Star Wars Episode 1 Racer.
Comment ça a vieilli, ça ?
Alors, figure-toi que ça a plutôt très bien vieilli, je trouve.
Ouais. Cool.
Alors, sur N64, on avait une version un peu amputée qui était à 30 images par seconde, à peu près constante. Hein, c'était pas du 20 images par seconde qu'on avait l'habitude sur N64, mais ça restait quand même la version inférieure, c'est-à-dire que la version supérieure, c'était la version Dreamcast, et éventuellement la version PC si t'arrivais à la faire tourner.
Alors moi j'arrivais à la faire tourner.
Bah moi j'y arrivais pas parce que j'avais pas de driver OpenGL, parce que je sais plus ce que j'avais comme carte, et donc
ah oui, c'était à l'époque où je sur PC,
ah
c'était
oui,
la croix la manière.
Ouais.
Ah oui, voilà, parce que t'avais un driver Glide, et puis t'avais éventuellement un driver Trion, et puis des merdes de toi, quoi. Donc, c'était quand même un peu la galère à faire tourner. Donc là, c'est juste une réédition. Donc c'est juste, ils ont pris la version Dreamcast, ils l'ont recompilé sur Switch. Un peu de choses près. Il y a eu quand même quelques petits ajouts, mais pas grand chose. Ça reste toujours très rigolo à jouer, je trouve. Ce qui est très marrant, en fait, c'est surtout qu'il y a enfin un mode, comme sur la version arcade, double stick. Très 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 amusant. Donc je rappelle, sur la version arcade, t'avais une vraie cabine, ce qui était la cabine du pote d'Anakin, et en fait pour pouvoir ça se pilote comme un tank, finalement t'avais deux manettes, et en fait pour pouvoir tourner à gauche, bah tu avançais la manette de gauche, tu reculais la manette de droite, donc tu faisais une espèce de dérapage. Pour pouvoir avancer à fond, tu poussais les deux manettes, et ainsi de suite. Donc là tu as un mode de jeu, on va dire N64, dans lequel t'accélères avec le bouton A, et puis c'est tout, puis t'as un dérapage, t'as une espèce d'aérofrein, tu peux, pareil, charger un turbo et tout ça, enfin, ça reprend exactement le même jeu. Mais en plus, tu as ce mode arcade qui est très rigolo à jouer.
Mode roleplay.
C'est ça, ça apporte pas grand chose, mais c'est très rigolo à jouer. Je rappelle qu'il y a un easter egg sur la version N64, où quand tu tapais je ne sais plus quel code dans le menu des codes, tu pouvais jouer avec deux manettes pour pouvoir rejouer exactement comme dans le mode arcade.
Ah, mais c'est Stop Skeletons of Fighting
Café qui était... sur la fameuse double manette.
J'essaie de me souvenir à quel moment j'avais vu ce truc à la con où tu gérais ton truc avec les deux sticks. Maintenant, je me souviens.
Voilà, donc c'est très rigolo. Alors, Star Wars Episode 1 Racer, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. En fait, ce qui est très rigolo, c'est le côté presque RPG du mode solo.
Parce qu'il faut upgrader son vaisseau, je crois.
Exactement. Tu fais une course. Une fois que t'as fini, tu gagnes des crédits républicains.
Ah, à la Monster Hunter, quoi.
Presque. Et en fait, tu vas chez Watto. Et donc, tu peux acheter du matériel neuf, donc pour augmenter ton accélération, ta résistance, ton bouclier, ton turbo, des trucs comme ça. Mais tu peux aussi aller à la casse. Et en fait, la casse, elle est générée aléatoirement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu y vas, tu vas avoir des pièces différentes qui vont avoir une résistance moindre et qui vont durer moins longtemps ou qui vont casser plus vite, mais qui vont être vraiment pas chères, qui peuvent te donner un sacré avantage en course. Donc t'as cette espèce de mode carrière un peu curieux qui marche étonnamment bien, je trouve. Encore aujourd'hui, et là effectivement à 60 images par seconde avec une vision un peu plus large, donc il y a toujours des courses un petit peu à la con qui marchent pas super bien, mais il y a plein de courses qui marchent très bien, et je trouve que le jeu lui-même marche vraiment pas mal. Et je vais finir avec deux autres jeux de course beaucoup plus orientés rétro, un que je vais vous déconseiller qui est Horizon Chase Turbo. Alors c'est fait par des Brésiliens de mémoire, j'aurais dû préparer ça, ça aurait été bien. Donc Horizon Chase Turbo, c'est en fait un hommage aux jeux en Super Scalar, donc des jeux comme Hang-On ou Outrun de Sega. Donc c'est un jeu qui est tout en 3D, mais où t'as un effet de perspective très très bizarre, où t'as l'impression que le décor en fait t'arrive dessus très très vite. T'as pas l'impression de te déplacer, t'as l'impression que le décor se déplace autour de toi. C'est très bizarre. Et en fait, donc, le jeu lui-même est pas mauvais. Il y a des musiques très sympas, il y a un style rétro gros pixel, low poly, vraiment vraiment très très sympa. Donc j'ai vraiment pas de soucis avec ça. Mais le problème, c'est que la version des maths coûte très cher, parce qu'en fait, quand t'achètes la version physique ou quand t'achètes la version des maths, en fait, tu achètes juste un tiers du jeu. Et deux autres tiers sont des DLC.
Ah putain, ils font chier avec ça.
Et ouais, donc quand tu démarres le jeu physique, en fait, tu vois le premier, t'as un menu où t'as le premier menu, alors t'as pas mal de courses et de grands prix dedans, hein, c'est pas la question, c'est que les deux autres menus, c'est des trucs à acheter à côté, donc... C'est un peu...
Attends, t'as acheté une version des maths et il n'y a pas tout dedans?
Dans la version des maths, en fait, non, il n'y a pas tout dedans.
Non, je crois que c'était la version... Et la physique, il y a tout, du coup.
La physique, non, il n'y a pas tout dedans.
Mais c'est stupide.
Oui. Donc, à la limite, achetez-le quand il y aura un Horizon Chase Turbo Complete Edition, quoi.
Faut attendre les soldes.
Ouais, ou acheter Fast en attendant.
Voilà. Et par contre, un deuxième jeu qui est sorti, lui, il y a très très peu de temps, en tout cas en physique, qui est sorti en des maths il y a quelques mois, que moi, j'avais pas joué, qui est Hot Shot Racing. Ça n'a rien à voir avec le film Hot Shot. Ça m'aurait fait triper en vrai, mais ça n'a rien à voir. C'est un jeu qui est plus un hommage à la période Virtua Racing Daytona USA de Sega.
Daytona!
Tu as la même physique que sur un Daytona USA arcade. Tu as le même genre de graphisme low poly, avec des surfaces, avec du flat shader, donc des surfaces qui ont juste une seule couleur unie.
Ouais, du bon gros.
C'est joli, hein, pour le coup. Hein. Je vois les vidéos, là, c'est joli comme rendu.
C'est
hein.
Super joli comme rendu, et surtout, ils ont les mêmes astuces à la con qu'à l'époque, c'est-à-dire que c'est les éléments du paysage qui te servent à pouvoir anticiper les virages et les trucs comme ça. C'est-à-dire que chaque course est conçue comme une espèce de parc d'attractions. Donc avant chaque virage, comme un manège, comme un grand 8, en fait, avant chaque virage, il y a un élément reconnaissable dans le décor qui te permet de savoir que le virage va arriver. C'était l'astuce de Daytona USA pour être certain que t'allais pas te banaler dans le décor parce que tu voyais pas arriver le virage. Donc même si là maintenant tu le vois largement arriver parce que la distance d'affichage est très très bonne, tu as toujours ces éléments qui restent. Et donc Hot Shot Racing, c'est un très bon jeu, c'est très 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 rigolo à jouer.
Ah putain, les petits débris en triangle et tout, génial.
C'est ça, c'est vraiment très 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 fun à jouer. C'est un jeu qui te happe bien. Je veux dire, la musique, tu rentres dans une espèce de trip où t'es très concentré dans ce que tu fais, t'as une physique super agréable, t'as une grosse différence entre tous les véhicules, parce que t'as grosso modo trois notes, hein, t'as vitesse, accélération, dérapage, et quand tu prends un véhicule, dérapage, tu passes ton temps à déraper, hein. Je te garantis que t'es une putain de savonnette. voilà, il y a même des personnages qui ont des histoires avec des cinématiques de fin, enfin, tu vois, les mecs se sont tapés un sacré délire. Ça marche très 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 bien, et c'est vraiment cool. Franchement...
Ah, ça a l'air cool. Ouais.
Voilà, si vous pouvez, ça marche super bien. 60 images par seconde, une physique qui dépote, un jeu qui est quand même un petit challenge. Hein, je veux dire, tu vas pas mettre un tour au PC comme ça. Le seul truc dommage sur
Hot Shot Racing...
il est en promo. Le seul truc dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour jouer en ligne. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais en dehors de ça, ça marche vraiment bien. Voilà, donc j'ai fait le tour des petits jeux de course auxquels moi je joue. Je vous rassure, je fais aussi du Hyrule Warriors. Mais voilà, si vous cherchez des jeux de course sympas sur Switch, c'est la première fois depuis, je crois, la GameCube qu'il y a autant de choix disponibles.
Mais il y en avait dès le Day One. Hein. Fast et Remix, j'avais adoré, quoi.
T'as Fast Racing Neo qui est sur Wii U, qui était très bon aussi. Alors qu'il y a un principe un peu particulier, mais qui marche bien. D'ailleurs, je suis très étonné que Faster MX soit jamais sorti en physique, parce que finalement, il l'aurait peut-être mérité.
C'est vrai.
Bon, Nintendo, bouge-toi le cul, quoi. Voilà, quand même.
Limited Run.
Ah, Limited Run, je pense que là, ça va être compliqué. Mais bon. Bref, et bien sur ces fortes paroles, nous allons nous dire au revoir. Nous allons nous retrouver normalement dans 2 semaines. J'espère qu'on pourra faire une émission sur la collectionnite, puisque nous avons un invité assez exceptionnel. En tout cas, moi, il me fait triper. Donc on verra bien si on arrive à le récupérer à ce moment-là. Voilà, et donc on se retrouve dans 2 semaines, on vous fait des gros bisous, et on vous souhaite un bon confinement. Oui !
Oui !
Bisous, bisous !
Bisous !
Prenez soin de vous. Thank you.